de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu citire. Să luăm aminte, în vremea aceea a venit un om la Iisus și, îngenunchind înaintea Lui, a zis: Învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care are un duh mut și oriunde l-apucă îl zdrobește și face spume la gură și scrâșnește din dinți și înțepenește. Și am rugat pe ucenicii tăi să scoată, dar n-au putut. Atunci el, răspunzând lor, a zis: O neam necredincios, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi, aduceți-l la mine. Și l-au adus la dânsul, dar Duhul, văzându-l pe Iisus, îndată l-a scuturat pe copil, și acesta, căzând la pământ, se tăvălea și spumega. Și l-a întrebat pe tatăl copilului: câtă vreme este de când i-a venit aceasta? Iar el a răspuns: din copilărie, și de multe ori l-a aruncat și în foc și în apă ca să-l piardă. Și de poți ceva, ajută-ne nouă, fie-ți milă de noi. Iar Iisus i-a zis: de poți crede, toate sunt cu putință pentru cel credincios. Atunci tatăl copilului a strigat cu lacrimi și a zis: Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Văzând că dă nevală poporul, Iisus a certat duhul cel necurat zicându-i: Duh mut și surd, eu îți poruncesc, ieși afară din copil și să nu mai intri în el. Atunci Duhul, răcnind și scuturându-l cu putere, a ieșit afară, iar copilul a rămas ca mort, încât mulți ziceau că a murit. Dar Iisus, apucându-l de mână, l-a ridicat, iar el s-a sculat în picioare. După ce a intrat Iisus în casă, ucenicii săi l-au întrebat deoparte: pentru ce noi n-am putut să-l izgonim? Iar dânsul le-a zis: acest neam de diavol cu nimic nu poate fi izgonit, decât numai cu rugăciune și cu post. Ieșind apoi de acolo, treceau ei prin Galileea, iar Iisus nu voia să știe nimeni de aceasta, căci învăța pe ucenicii săi și le spunea că Fiul omului se va da în mâinile oamenilor și îl vor omorâ, iar după ce îl vor omorâ, a treia zi va învia. Dar ei nu înțelegeau cuvântul și se temeau să-l întrebe.
Lecture du Saint-Évangile selon Saint-Marc. En ce temps-là, un homme s'approcha de Jésus, s'agenouillant devant lui et disant: Maître, je t'ai amené mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. Et l'enfant écume, grince des dents et se raidit. J'ai demandé à tes disciples de l'expulser, mais ils n'en ont pas eu le pouvoir. En réponse, Jésus s'exclama en gens incrédules: Jusque à quand serai-je parmi vous? Jusque à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. Et ils l'amenèrent auprès de lui. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit le secoua violemment, et tombé sur le sol, il s'y roulait en écumant. Jésus demanda au père de l'enfant: depuis quand cela lui arrive-t-il? Il répondit: depuis son enfance, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu as quelque pouvoir, viens à notre aide par compassion envers nous. Jésus lui dit, le pouvoir, c'est la foi. Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria en pleurant, je crois, Seigneur, viens en aide à mon peu de foi. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur en lui disant, esprit sourd et muet, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Après force, cris et convulsion, l'esprit sortit et l'enfant devint inerte, si bien que la plupart des gens disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Lorsque Jésus fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent en privé, « Pourquoi nous autres n'avons-nous pu l'expulser ?» Il leur répondit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. » Partant de là, ils traversèrent la Galilée, et Jésus ne voulait pas qu'on le sût, car il instruisait ses disciples et leur disait, « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, et ils le feront mourir, mais une fois mort, le troisième jour il ressuscitera. »
Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Évangile, le passage de l'Évangile que nous venons d'entendre, se situe au moment où le Seigneur vient d'être transfiguré sur le mont Tabor, avec seulement quelques-uns de ses disciples. Il descend de la montagne. Et voici que, arrivé au pied de la montagne, dans un village, il se rend compte qu'il y a une grande agitation. La foule est là, ses disciples, des scribes. Les gens le saluent, et voici que sort de la foule un homme, accompagné de son enfant, qui est possédé. Cet homme se prosterne devant le Seigneur et lui demande son aide. Un peu avant, il a demandé aux disciples de guérir cet enfant et ils en ont été incapables. Et n'en doutons pas, cet homme était désespéré et il avait sans doute, avant de s'adresser aux disciples, consulté nombre de médecins sans aucun résultat. Et voilà que le Seigneur arrive. Lui dont la renommée est grande dans le pays, et le père de l'enfant possédé se dit qu'il n'a rien à perdre et que pourquoi pas, il a demandé aux autres, il peut toujours demander à celui-ci, à ce rabbi dont on dit tant de bien. Et il dit, si tu peux, par pitié, guéris mon fils. Le Seigneur le reprend. Et une chose étonnante, le Seigneur ne dit pas « tout est possible » à moi qui suis Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, mais il dit « tout est possible » à celui qui croit. C'est un paradoxe, on aurait pu croire que le Seigneur Tout-Puissant disait « je vais le guérir, je peux tout ». Il inverse la question, il la retourne et il dit « tout est possible à toi qui as besoin de mon aide, mais si tu crois. » Et l'échec de la guérison de cet enfant jusqu'à présent est dû au fait que tu ne crois pas. Et ces paroles bouleversent le Père, qui s'exclame « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Autre paradoxe dans notre mentalité, où on croit, où on ne croit pas. Mais comment peut-on dire « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » Cette exclamation du Père de l'enfant démonisé, c'est une prière, c'est notre prière. C'est chacun d'entre nous ici présents qui peut la dire. Si nous sommes présents aujourd'hui, assez peu nombreux, somme toute, c'est parce que nous croyons. Mais quelle est notre foi? Combien de fois n'avons-nous pas été bouleversés, voire choqués, voire scandalisés par ce que nous voyons autour de nous, qui lutte contre notre foi? Que ce soit dans le monde qui nous entoure, que ce soit nos proches, peut-être en paroisse. Nous avons été témoins de quelque chose qui a ébranlé notre foi. Oui, nous sommes croyants, mais de quelle manière? De quelle manière? Je repense également à une phrase du Père Sophronie, de bienheureuse mémoire. Vous savez, le Père Sophronie est le disciple de Saint Silouane de Latos et il a vécu jusqu'au milieu des années 90. Avec Saint Silouane, il disait une chose, croire en Dieu est une chose, le connaître est autre chose. Même le démon croit en Dieu, puisqu'il peut le nommer. En revanche, il ne le connaît pas, il n'a pas cette... Il ne peut avoir confiance en Dieu. Cet homme est bouleversé et proclame avec humilité « Seigneur, je crois, mais cette foi est bien faible. Viens au secours de ce peu de foi, de cette ombre de foi qui est la mienne. » Ce qui veut dire « Seigneur, viens et œuvre en moi. » Faisant preuve d'humilité, le Père entre de plein pied avec Dieu. Par cette humilité, il devient l'égal de Dieu et le Christ peut lui répondre et guérir son enfant. Les disciples sont impressionnés. Ils se rendent compte que leurs paroles et leurs seules paroles n'ont rien pu faire. Ils demandent au Seigneur, mais comment toi as-tu pu réussir? Que devons-nous faire? Et le Seigneur répond, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. La prière et le jeûne. C'est ce que, en ce moment, tout particulièrement dans cette période de l'année qu'est le carême, nous essayons, je dis bien nous essayons de vivre. Par le jeûne, nous renonçons à des satisfactions extérieures. Je vais utiliser un mot pas très heureux, et issu peut-être du vocabulaire psychologique, nous évitons les compensations. Lorsque les choses ne vont pas pour nous, eh bien nous avons plutôt tendance à nous consoler avec les choses matérielles, la nourriture, l'acquisition de telle ou telle chose totalement inutile, mais le fait d'acquérir, de nous remplir, de remplir ce vide que nous sentons en nous par toute autre chose que Dieu, nous donne une impression fugitive de plénitude, mais une impression seulement fugitive. Le jeûne, c'est justement renoncer à tous ces palliatifs, c'est renoncer à tous ces ersatz, à toutes ces idoles, à toutes ces choses qui momentanément nous font oublier Dieu et nous pousseraient à le remplacer, mais sont incapables de remplacer le Seigneur. Le jeûne, c'est dire « j'arrête ». De dire à mon corps, tu es le maître. Et ce besoin, cette faim qui est en moi, ce désir qui est en moi, je ne pourrai l'assouvir qu'avec le Seigneur. Donc la suite et le lien direct avec le jeûne, c'est la prière. le jeûne sans la prière est une absurdité. Lorsque nous nous sommes vidés de l'inutile, la place est libre pour que l'unique nécessaire puisse occuper toute notre vie et tout cet espace que nous avons libéré en nous. C'est la prière. À ce moment-là, nous sommes emplis de l'Esprit Saint. Et la prière, frères et sœurs en Christ, ce n'est pas 2 minutes le matin et 2 minutes le soir, comme si c'était une règle qui nous est imposée de l'extérieur et que nous accomplissons pour être tranquilles et quittes avec le Seigneur. J'ai fait mon devoir, c'est tranquille. J'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant je passe à autre chose. C'est toute notre vie, toute notre existence, le jour et la nuit qui sont des prières, qui sont transformées en prières. La prière est une manière d'être. Ce n'est pas une action extérieure, c'est une manière d'être. Pardonnez-moi aussi ce raccourci, peut-être un peu audacieux, un peu rapide. La prière, c'est être amoureux de Dieu. Un homme ou une femme amoureux a toujours le nom de l'être aimé dans le cœur, dans la mémoire, à la bouche. Ce devrait être notre cas. L'homme ou la femme amoureuse est toujours en prière pour l'être aimé, toujours en cette attente de l'être aimé. Lorsque nous sommes en prière devant Dieu, c'est exactement la même chose, c'est bien plus encore. Par le jeûne et la prière, nous abandonnons tout ce qui est inutile et nous sommes unis au Seigneur. Nous laissons le Seigneur œuvrer en nous. Et à ce moment-là, nous pouvons dire, « Seigneur, tu vois, je t'offre au fond rien, ma pauvreté, mon incapacité à aimer, mon incapacité à prier. Je t'offre peut-être aussi mon refus de prier. » Ça a dû nous arriver à chacun d'entre nous. Au moment d'être placé devant le Seigneur, nous avons délibérément choisi autre chose. Ça, c'est un refus de prier. D'une façon délibérée, nous choisissons autre chose, une idole, c'est-à-dire que nous plaçons quoi que ce soit en face, entre nous et le Seigneur. Si c'est arrivé, rentrons en nous-mêmes et disons, Seigneur, je n'ai rien d'autre à t'offrir que la pauvreté de ma prière, que la pauvreté de ma vie, que la pauvreté de cette vie spirituelle. Agis toi-même en moi. Celui qui jeûne et qui prie ne se fie plus à son propre pouvoir ou à sa propre force, ne se fie plus aux compensations que le monde peut donner. Il se fie uniquement au Seigneur. Se fier, c'est le même mot que confiance et c'est le même mot que foi. Et à celui qui croit, tout est possible. À notre Dieu soit tout honneur, toute gloire et toute adoration dans les siècles des siècles. Amen. Thank you.